L'émission L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Julien Jean-Pierre. Dodécaphonique. Mise en scène. Production Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Aime sentir le corps de Patrick contre lui. Il aime le caresser, lui donner des baisers, lui dire des mots tendres. Il aime le voir dormir contre lui, corps, sexe. Il le lave même. Lorsque Patrick va voir sa mère, il a peur qu'elle s'aperçoive de son bonheur sur son visage et ses yeux qui pétillent. Avant de rentrer dans la clinique, il marche, se frotte les yeux et pense à quelque chose de triste. Il a honte d'être heureux alors qu'elle est malade et souffre. Lorsqu'elle le voit, elle lui sourit. Elle lui dit qu'il est tout essoufflé et semble triste. Elle l'embrasse tendrement et le plaque contre elle. Lui se sent gêné et a honte. En plus, il y a l'odeur de la maladie. Ça le gêne, mais il la laisse faire. Il se dit que ça lui fait plaisir. Il fait celui qui est heureux contre elle. Puis, il parle de choses et d'autres. Ceci ce qu'ils ont fait. Il l'accompagne pour le repas qu'il mange avec elle. Il la force à manger. Les femmes de service disent qu'elle a de la chance d'avoir un si gentil garçon. Ça fait plaisir à Marie. Puis, il lui dit, « Je dois prendre le car. C'est le dernier. » Ils se disent au revoir comme si c'était la dernière fois. Une fois sorti, il se sent soulagé. Il raconte tout ça à Damien. Il lui dit que c'est normal de chercher à s'éloigner de la maladie. Damien le console. Les jours passent. Patrick va voir la boîte aux lettres de chez lui tous les jours. Pour le courrier, on ne sait jamais. Il travaille tous les après-midi le panneau avant d'aller voir sa mère. Damien se dit qu'il n'a jamais été aussi heureux. Et cela à cause de la mort de son père et celle prochaine de la mère de Patrick. Il a fini son livre, « La vie d'un enfant martyr ». Pour une fois, il a fait revivre une personne pour montrer l'enfant roi, la monstruosité qui lui a été faite. Il est satisfait de son livre. À la fin, il a fait une grande partie qui parle des prétendants de Louis XVII. Il présente son livre comme d'habitude. C'est compliqué, parce que c'est un auteur mis à l'index. Mais il trouve un éditeur qui veut bien l'éditer. Une édition pour les universitaires. Après relecture du livre, il est présenté à la presse. Très peu le lisent. Le sujet n'intéresse pas. À part France Culture, on n'en parle pas. Le livre se vend très peu. Mais un éditeur américain veut bien l'éditer. L'éditeur américain fait traduire le livre, ce qui fait que le livre de Damien a un certain succès sans l'aide de la presse ni des médias. C'est mieux. Cela lui donne un petit pécule. Il est heureux. Oui, il est heureux. Dans une ferme du Mont du Lyonnais, une ferme lugubre. Devant la maison, il y a une cour avec son fumier et des poules qui picorent. Il y a aussi des bâtiments en dépendance. Tout est entouré d'un vieux mur. Dans une pièce sombre et enfumée, et assis sur une chaise près d'un feu, un homme qui fume sa pipe, un vieil homme tout maigre, cheveux blancs. Il ne semble pas très grand et tous ses vêtements sont sales et déchirés. Une vieille femme qui a le visage d'une chouette, cheveux blancs défaits, habillée d'une robe noire tachée, va à lui et lui dit « Il faudrait peut-être voir ce qu'il fait, ce bon à rien. Cela fait 2 jours qu'il est attaché et n'a pas mangé. Va voir ce qu'il devient et ramène-le-moi pour que je voie. Il faut le mettre d'aplomb pour qu'il travaille. Moi, j'ai besoin de lui. » Le vieux soupir se lève, prend sur le rebord de la cheminée un fouet et sort de la pièce. Il fait nuit dehors. Oui, il fait nuit dehors. Et il fait froid. Il va à une grange, ouvre la porte et trouve couché à même le sol un enfant, petit, maigre, sale, habillé en guenilles. Il est enchaîné et ne bouge pas. Le vieux lui crie « Lève-toi !» Il lui donne des coups de fouet. Il ne bouge pas. Après avoir passé sa colère, il se penche sur lui et voit qu'il est mort. Merde ! Il retourne voir la vieille. Elle est dans sa pièce, noire et enfumée. Et est à table à boire son vin. Il lui dit, il est mort. Elle lui dit, il faut faire venir un médecin. Il lui dit, pourquoi faire? Ça coûte cher, puisqu'il est mort. Elle lui dit, on est obligé de faire venir le médecin pour constater la mort et le faire enterrer. Ils vont tous les deux dans la grange et voient le corps du petit enfant raide mort. Cela doit faire plusieurs jours qu'il est mort. Le vieux dit, il faut le donner à manger au cochon. Elle lui dit, c'est bien qu'on n'a plus de cochon. Et si on l'enterrait? Elle lui dit, il y en a assez dans le jardin. Et puis on risque d'être vu par le voisin. Le Martin, il ne veut pas. Il peut être dénoncé par les Martins et gendarmes. Risque de venir. Tu comprends, toi qui comprends? Il retourne à la cuisine, se met à table pour boire et réfléchir. Puis décide de Gerlars d'aller chercher le médecin. Du vieux dit qu'il a une idée. Le mettre dans le fumier, ça servira pour les légumes. Alors ils décident de mettre le petit corps dans le fumier. Ils prennent une brouette qui se trouve à côté de la porte d'entrée de la grange pour mettre le petit cadavre. Ils vont à la grange pour mettre le petit corps dans la brouette et vont vers le tas de fumier. Le vieux prend une fourche pour faire un trou dans le fumier et mettre le cadavre dans ce trou. Ensuite, ils sont retournés à la cuisine et continuaient à boire. Le vieux dit, on a fait du bon travail. Le lendemain matin, le facteur vient leur apporter une lettre recommandée. Le vieux et la vieille le reçoivent. À la cuisine, le facteur voit des godasses d'enfants qui traînent à terre. Et en sortant, il voit que sort du fumier une petite main. Il ne dit rien. Il va voir les gendarmes pour dire ce qu'il a vu. Un gendarme à tête rouge lui demande « Tu étais ivre ?»«
Non. »
Le gendarme décide tout de même d'aller voir les terriers. Les terriers, des gens un peu rustres. Et ils y vont. Ils font comme si de rien n'était. Ils les retrouvent tous les deux complètement ivres. Et ils voient la petite main qui sort du fumier. Sans rien dire, un gendarme demande au vieux.
« N'auriez pas un petit ?»
Le vieux lui dit. « Il a disparu depuis quelque temps. »«
Vous n'avez pas prévenu la gendarmerie ?»«
Non, et puis ça n'aurait servi à rien. Il va peut-être revenir. » Un gendarme téléphone avec son téléphone portable pour prévenir ses collègues. Les collègues arrivent. On trouve le petit cœur qui a été torturé et affamé. On arrête les vieux. La vieille est complètement idiote et ivre. Dit parce qu'elle croit qu'elle est dans un jeu télévisé aux gendarmes. Le vieux a été séparé de la vieille et ne peut l'arrêter de parler. Et puis, il se dit que ça n'a aucune importance du moment qu'ils ont déjà trouvé un. Il peut bien en trouver les autres, elle dit.
Il y a encore d'autres dans le jardin.
Un gendarme lui demande,
et c'est quoi ces enfants?
Elle lui dit abruti,
C'est un monsieur, un dénommé Humbert, très riche. Ce sont ses enfants naturels. Il les donne pour qu'on s'en occupe. Mais ils sont tous morts, morts de mort naturelle. Alors, on cherche les corps. Et malheureusement, on les trouve. Ils sont menés en prison. La presse locale est informée. On en parle comme des Thénardier. On trouve que leur maison ressemble à la maison de Pierre Bayle. On voit dans leur papier que le dénommé Humbert payait des sommes assez importantes à ses vieux. On trouve la liste des noms des petites victimes et un dénommé Patrick. La police fait une enquête sur Humbert et s'aperçoit que c'est le milliardaire, que c'est lui qui a amené à ses paysans ses fils illégitimes. Ce cochon engrossait ses bonnes et ensuite s'occupait des petits comme ça. On apprend aussi qu'il a comme neveu le médecin Adrien Humbert et que c'est lui qui a hérité du vieux. La police convoque Adrien pour lui poser quelques questions. Adrien leur dit « Je n'avais pas de rapport avec mon oncle. » On lui montre aussi les noms des petits. « Je ne sais pas. » La police va approfondir la chose avec les gendarmes. Les journaux en parlent, les monstres du Lyonnais émettent la liste des petites victimes. Damien lit tout ça et la liste. Il voit le nom de Patrick. Il l'a fait voir à Patrick. Et se dit que Patrick est le cousin d'Adrien. Patrick est surpris, reconnaît sur la photo la ferme et se dit qu'il a failli mourir. Il lui fait lire l'article et les photos à Patrick qui reconnaît les lieux, c'est horrible. Tout son calvaire d'enfant lui revient. Damien demande à Patrick, est-ce que tu veux témoigner contre ces personnes? Patrick lui dit, « Non, je ne veux plus avoir de rapport avec ce passé si horrible. J'ai failli mourir à cause d'eux. J'ai eu la chance de pouvoir m'évader de mes tortionnaires. Je ne veux plus en entendre parler. » Damien lui dit, « Ça pourrait servir pour qu'ils puissent être jugés et punis. » Patrick lui dit, « Avec tout ce qu'on a trouvé, la police peut les punir. Et puis, de toute façon, la peine de mort a été abolie. Ils vont en avoir pour 10 ans, et ensuite ils seront libres et peut-être recommenceront les trafics. » Damien lui dit, « Je comprends, je ne te parlerai plus de cette horrible chose. Il y a Adrien Humbert qui est l'ami de mon père, et malheureusement cela risque de venir jusqu'à nous, cette affaire. » Patrick lui dit, « Peut-être pas. » Patrick fait d'horribles cauchemars lorsqu'il dort près de Damien. Damien le réconforte et se dit qu'il faut qu'il ne pense plus à sa vie qu'il a eue chez ces vieux salopards. Patrick ne parle pas de cette histoire à sa mère. Elle a suffisamment de soucis comme ça. Et puis, à quoi cela servirait et qui lui en parle? Les jours passent et l'on parle toujours de cette horrible affaire. L'on dit que c'est l'affaire de l'auberge rouge du Mont du Lyonnais. Malheureusement, l'on vient aux alentours de la ferme des gens pour voir si on ne peut pas voir des choses. Cela est très mauvais, de très mauvais goût, et les gendarmes font un cercle où les gens ne peuvent pas s'accrocher. Les deux vieux sont toujours en prison, très surveillés. On se demande s'ils se rendent compte de l'horreur qu'ils ont fait. Un grand avocat va les défendre. Il dit à la presse, « C'est la faute de la société, tout ça. Ces gens sont des victimes de la société. Et d'ailleurs, le véritable coupable de cette affaire, c'est ce milliardaire qui engrossait ses bonnes. Ils sont innocents. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ne pouvaient pas faire plus pour les enfants, étant donné leur fortune. Il faut les innocenter au nom des droits de l'homme. » Je suis dans cette idée les partis politiques de gauche et d'extrême gauche, les intellectuels, les journalistes, etc. On oublie les petites victimes et les tortionnaires. On en fait des victimes. Il y a même des manifestations pour défendre ces deux personnes. On crie qu'elles sont victimes du système de la bourgeoisie, qu'il faut les innocenter et les libérer. Le ministre de la Défense dit qu'il y aura un jugement équitable, ce qui veut dire que ces deux personnes seront pour ainsi dire innocentées. Damien se dit que Patrick a bien fait de ne pas vouloir témoigner, que ce procès qui va avoir lieu est devenu un sujet de lutte des classes et que l'on va oublier les innocents qui sont morts. Il n'y a plus de justice en France. Un autre avocat dit « Je défendrai toujours les personnes qui sont accusées et non les victimes. Les victimes ne m'intéressent pas et les victimes n'ont pas à s'acharner sur les coupables. » Il y a de nombreuses discussions sur cette affaire, des débats à la télévision et même un livre se prépare. Tout ça pour innocenter ces deux personnes. La justice, comme il y a beaucoup de personnes illustres qui défendent ces deux personnes, décide de les mettre dans une prison modèle. Ils auront un logement individuel. Damien dit, c'est une erreur cette façon. Une erreur judiciaire et une horreur cette façon d'agir. Il a l'idée d'écrire un roman sur les enfants martyrs à travers les âges et comment ils étaient traités et comment étaient traités par la justice et bourreaux d'enfants. Les jours passent et Patrick ne cherche pas à suivre les faits de cette horrible affaire. Il veut tout oublier, ne rien savoir. Il n'en parle pas non plus à sa mère. Damien ne lui en parle pas car il sait que cela le rend malade. La police et la gendarmerie continuent leur enquête. Ils essaient de savoir qui étaient vraiment ces deux enfants, ces enfants qui ont été amenés chez les vieux. On veut connaître un petit peu plus de choses sur Humbert. Ils font une enquête à Lyon. Il habitait à Lyon et en Suisse. Ils apprennent que c'était un homme qui menait à la baguette les gens de son service et qu'il était obsédé sexuel. Il violait les femmes qui n'osaient rien dire. Il les payait pour l'accouchement et prenait leurs enfants en disant de ne rien dire. Puis les enfants, il les envoyait chez le couple de paysans qui avait été à son service il y a de cela longtemps. Il leur envoyait une petite somme pour que les paysans puissent s'occuper des enfants. Mais il n'est jamais venu les voir. Cet homme, immensément riche, est violent. On étudie aussi les origines de sa fortune. On apprend qu'elle vient d'actions d'entreprise. Et comme il avait pris la nationalité suisse, son argent était placé en Suisse. Mais il n'y a rien de répréhensible là-dedans. On étudie aussi sur sa famille. Là, on est obligé d'interroger Adrien. Adrien parle des origines de sa famille et que ses parents n'étaient pas fortunés, mais qui se sont sacrifiés pour qu'il puisse poursuivre ses études, que l'oncle ne venait jamais les voir et ne s'intéressait pas au sort d'Adrien. Il s'est mis à le détester parce que c'était un garçon. Il n'aimait que les femmes. Alors il a mis sur son testament sa sœur. Il ne l'a jamais aidé. Il n'a jamais aidé ses parents qu'il n'aimait pas parce qu'ils étaient pauvres. Et lui ne s'est jamais occupé de lui lorsque ses parents sont morts. Il ne lui a jamais donné un centime. Il ne peut rien dire de plus parce qu'il ne le fréquentait pas. Et d'ailleurs, il n'a jamais été chez lui. Il a complètement oublié jusqu'au jour où il a appris qu'il héritait de lui. Il a été surpris et ne lui a pas été reconnaissant. On fait aussi une enquête pour connaître ces paysans. On apprend qu'ils sont issus d'une famille d'alcooliques de 20 enfants. Les deux familles se sont unies. Comme leurs parents habitaient la Vendée et disaient qu'ils étaient très pauvres, comme les deux familles se ressemblaient, ils se sont mariés comme ça. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Puis, ils ont trouvé une ferme dans les monts du Lyonnais et ont fait par hasard la connaissance de Humbert qui leur aurait proposé de travailler pour lui dans son domaine qu'il avait dans les monts du Lyonnais. Ils ont travaillé pour lui, ont placé de l'argent et sont retournés dans leur ferme. Puis Humbert leur a proposé d'élever ses enfants illégitimes en échange d'une somme à ces gens qui sont déjà alcooliques, violents et sans morale. Ils sont incapables de voir la différence entre le bien et le mal. Dans le coin où ils habitaient, ils ne fréquentaient personne. Et les gens du village les trouvaient un peu sauvages. Mais c'était tout. Chacun doit rester chez soi et ne rien voir. D'ailleurs, les enfants n'avaient pas le droit de sortir du domaine de la ferme. En passant, on entendait des cris, mais c'était tout. Et puis les gens se disaient que les enfants, il faut bien les éduquer, et quelquefois, il faut donner quelques taloches. Lorsqu'on les interroge, ils n'arrivent pas à comprendre de quoi on les accuse et pourquoi on leur fait du mal. On pense qu'eux aussi ont été maltraités par leurs parents et que cela leur paraît normal de faire la même chose. Tout l'argent qu'ils recevaient, ils le dépensaient en alcool. On ne peut rien en tirer de ces gens. On veut aussi faire des recherches sur ces pauvres filles qui ont accouché de leurs enfants du vieux Humbert. L'on trouve de pauvres femmes à moitié idiotes et qui se sont mariées car le vieux les mariait. Elles ne veulent leur rien dire. Elles ne veulent pas accuser. Elles ont peur que l'on sache. Leur mari, ça, c'est. Et ça, c'est bien passé. Mais ne veulent leur rien dire. L'on écrit dans le dossier que ce sont des filles à moitié idiotes et se sont fait laisser prendre par le maître comme ça. sans songer au mal, et qu'elles ont abandonné leur enfant, qui n'était rien pour elles. Elles ont accouché chez elles. Après ces interrogatoires, le juge qui traite l'affaire fait un dossier et le passe à son supérieur. Son supérieur décide que c'est prêt pour le procès. Le procès se prépare et les avocats étudient les dossiers. L'avocat de la défense, qui lui a derrière lui les intellectuels et journalistes, sans compter les partis de gauche qui sont de son côté. Le procès se prépare. En attendant, les deux accusés sont bien traités dans la prison. On continue à parler et de les défendre dans les médias, les droits de l'homme, etc. Comme si les victimes n'avaient pas droit aux droits de l'homme. Adrien a peur que le testament, qu'on lui dise de témoigner au procès. Cela le gênerait et aurait honte que tout le monde sache qu'il est parent de cet horrible vieil homme. Il va voir son avocat et lui dit qu'il ne souhaite pas témoigner dans cette affaire. Son avocat lui dit que malheureusement ce n'est pas lui qui décide de savoir s'il va être convoqué pour témoigner. Et puis Adrien aussi a peur qu'on lui retire l'héritage de son oncle. Après de nombreux mois de préparation, le procès a lieu. Oui. Le procès a lieu. Il a lieu à Lyon, foule de journalistes, intellectuels et hommes politiques. On veut défendre les deux diaboliques accusés. Adrien est obligé de témoigner et parler de son oncle. Il est furieux. Le procès a lieu en présence d'une foule immense. Tout se passe comme il l'avait prévu. On dit que ce sont des alcooliques immorales, mais c'est la vie qu'ils ont menée qui les destinait à ce drame. Et c'est la société qui les a forcés à vivre de cette façon. On parle aussi de l'oncle et de son immoralité, etc., etc. Adrien, qui a été convoqué par l'avocat de la défense, qui veut lui faire dire que son oncle est une personne immorale. Adrien lui dit ce que l'on sait déjà et surtout qu'il ne le connaissait pas. Il était fâché avec la famille. Il a hérité et a été surpris d'hériter. L'avocat de la défense n'est pas content et lui demande « Pourquoi votre sœur a-t-elle hérité avant vous ?» Adrien lui dit « Je ne sais pas. » Comme l'avocat de la défense voit qu'il n'y a rien à dire, il le laisse partir. Adrien est satisfait, il n'a rien dit de vraiment intéressant. Le procès dure plusieurs jours et on a même réussi à faire venir quelques pauvres femmes qui ont été abusées par leur maître. Seulement quelques-unes. Elles racontent leur calvaire et comment elles ont donné leur enfant à leur maître. On parle aussi des origines de ces deux pauvres innocents paysans qui sont accusés. Les médias parlent de cette horrible affaire, même les médias étrangers. On parle de ces deux victimes de la société et de la bourgeoisie. On oublie même de parler des enfants martyrs qui sont morts et enterrés dans le jardin de ces personnes. L'avocat de la défense parle de ces deux innocents, deux victimes de la société. On les défend tellement bien qu'il y a des applaudissements dans la salle. Puis, c'est le jour du verdict. Un verdict très clément. 3 ans de prison ferme pour la femme et 5 pour l'homme. Les journalistes, télévision, etc. et même les intellectuels disent que c'est un bon verdict, mais qu'ils auraient préféré qu'ils soient acquittés tous les deux. Un auteur à succès dit qu'il fera une pièce de théâtre sur ce drame horrible et sur ces deux innocents. Un autre dit qu'il va écrire un livre et en faire un film. La télévision aussi va faire un documentaire fiction, France 2 va le faire. Pour l'ensemble des intellectuels et de la gauche, ce sont des victimes. On commence même à manifester pour leur libération. Le ministre de la Justice dit que s'ils se comportent bien, ils peuvent être libres dans 1 an et demi. L'affaire est close. Damien trouve ce procès sans justice. Il pense à tous ses enfants qui ont souffert et sont morts. Il décide d'écrire un livre sur les enfants martyrs à travers les âges et comment leurs tortionnaires ont été jugés pour démontrer que la justice n'est plus la justice à notre époque. Il en parle à Patrick et lui dit qu'il est furieux. Patrick lui dit « Il ne faut jamais compter sur la justice humaine. Ce sont des histoires de mabouilles. » Les innocents sont toujours traités plus mal que les coupables. Alors, il ne faut plus y penser. Damien commence son travail et ne parle plus de cette histoire. Adrien a eu très chaud et a peur que les intellectuels et les journalistes lui demandent des comptes et de rembourser l'héritage. Dans sa clinique, on le regarde d'une drôle de façon. Le personnel dit qu'il a hérité d'un monstre. Il décide de créer une association pour aider les enfants martyrs. Cette association recevra ses enfants dans une maison pour les aider à vivre. Il a calculé que cela ne va pas trop diminuer sa fortune et que cela va faire bien. Il le dit aux journalistes parce qu'il les a convoqués. Je fais ça, c'est parce que j'ai reçu l'héritage de mon oncle et que l'argent doit servir à réparer les horreurs qu'il a fait. Le monde est satisfait. Il l'a bien fait. On ne lui reproche plus d'avoir hérité de son oncle puisque l'argent servira à réparer les torts de son oncle. Alors il met en marche son association et cherche une maison pour recevoir les enfants. On trouve un vieux château en ruine qu'il faut reconstruire et aménager pour cela. Cela fait bien qu'il ait acheté un château pour des enfants martyrs. C'est mieux que de les mettre dans une maison quelconque. Et tout se met en marche. Il y a même des reportages à la télévision pour montrer la mise en route de son association. Pour faire écologique, il achète des chèvres pour que les enfants puissent manger du lait de chèvre et du fromage. Il fait aussi dans la propriété un jardin écologique. Le chauffage sera aussi solaire. Tout ça, on trouve très bien. Il embauche du personnel pour s'occuper des enfants, des infirmières, médecins, éducateurs, enseignants et gens de service. Lorsque tout est prêt, après plusieurs mois, tout est prêt, Damien organise une fête.
Tu te sens bien, Dani? Racine n'a pas le droit de toucher à d'autres femmes que...
Tout le monde vient à cette fête.
Contact distrait de la Torah et de Dieu.
C'est une fête de crémanière où il invite toutes les personnes qui comptent dans la société bourgeoise. Ça a un succès énorme. Champagne, caviar, orchestre, etc. On est venu en Rolls, smoking, robe du soir. Il y a même des personnes qui sont venues en hélicoptère.
Qu'est-ce que tu attends? Tu te sens bien, Daniel?
Après cette énorme fête, il va falloir faire entrer des pensionnaires dans cet établissement. Damien ne sait comment trouver des enfants martyrs. Il a beau chercher, il ne voit pas. Bien entendu, les enfants martyrs sont cachés. Et comme il faut bien que l'association se mette en marche, il veut voir s'il n'y a pas des enfants dans les cités à prendre. Il embauche du personnel pour aller dans les cités et prendre des enfants. Ces personnes vont dans des familles et disent aux parents les avantages qu'aurait l'enfant à aller dans cette maison. Et puis, qu'ils aimeraient bien prendre leur enfant pour les aider. Certains parents acceptent en échange de certaines sommes qu'ils reçoivent. Et les enfants joueront les enfants martyrs dans ces maisons d'enfance d'Imbert.
Si tu veux encore chier, je te bois la gueule.
En réalité, ce sont des enfants normaux qui vivent normalement et même avec un côté voyou. Alors le pauvre Imbert se trouve avec des enfants de milieux défavorisés qui trafiquent pour la drogue, le vol et qui savent à peine parler français. Ce sont des délinquants. Ce sont plutôt les enfants qui martyrisent. C'est le contraire des enfants martyrs. Le personnel a des difficultés à s'occuper d'eux. Ils cherchent à voler, casser et à faire leur trafic. En deux mois, le château est devenu une véritable ruine. Adrien décide d'arrêter tout ça. Il en parle aux médias et dit que les enfants martyrs à notre époque martyrisent ceux qui veulent les aider. Mais comme ce sont des enfants des cités, les médias n'en parlent pas. Cela fait mauvaise presse pour les enfants des cités et les droits de l'homme, etc. Et puis, plus personne ne pense à cette histoire. On a oublié les deux tortionnaires. L'actualité est passée à autre chose. Adrien est tranquille. On a oublié son nom. Et d'où provient son héritage aussi. Les jours passent. Damien continue à écrire son livre. Patrick va toujours voir sa mère, où son état reste stable. Mais il se dit qu'elle est perdue. Les médecins le lui ont dit. Marie ne se sent pas très bien. Lorsqu'elle voit Patrick, elle lui dit, parce qu'elle se fait du souci pour lui.
Je regrette que tu n'aies pas de père à cause de moi. J'aimerais que tu puisses le rechercher.
Patrick lui dit, j'ai pas besoin de père, je ne l'ai jamais connu. Elle lui demande,
que vas-tu faire tout seul?
Il lui dit, je ne suis pas seul, puisque tu es là, tu vas guérir. Elle lui dit,
non, je ne vais pas guérir.
il ne sait quoi dire. Il va voir le médecin pour savoir. Le médecin le reçoit dans son bureau et lui dit: Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, dodécaphonique, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre.